France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin une historienne et philosophe pour la publication de son nouveau livre intitulé « Messieurs, encore un effort » publié aux éditions Flammarion Plon. Elisabeth Badinter, bonjour.
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 Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce nouvel essai « Contribution à la réflexion intellectuelle sur la place des femmes et des mères dans la société contemporaine ». Nous allons en parler longuement, mais avec Léa, nous tenions d'abord à vous dire combien nous sommes touchés de vous recevoir ce matin. C'est votre première intervention dans un média depuis la disparition de votre mari, Robert Badinter. Une disparition qui nous laisse, nous, et qui laisse sans aucun doute des millions de Français orphelins. Ça, nous voulions vous le dire et vous demander comment... vous avez reçu la ferveur, mais aussi l'attachement du pays à Robert Badinter lors de l'hommage national qui lui a été rendu.
Je l'ai reçu avec une certaine forme d'étonnement et surtout, le mot qui me vient d'abord, c'est avec reconnaissance.
Et pourquoi reconnaissance et pourquoi étonnement ?
Étonnement parce que... Robert était assez discret, que c'était un très vieux monsieur, que bon, on ne sortait pas du tout de chez nous. C'était un peu étonnant après des années souvent difficiles pour lui. Donc voilà, c'était l'étonnement, c'était qu'au fond tant de gens se souviennent de ce qu'il avait fait. On oublie vite aujourd'hui, vous savez. Et donc, voilà, c'est la raison de l'étonnement. Mais la reconnaissance est immense. Je ne peux pas vous dire à quel point le fait de recevoir des messages, des longs messages, souvent très émouvants, c'est absolument bouleversant. Et j'ai envie de dire merci, merci, merci.
Voilà. Et vous avez tout un tas de maires qui veulent faire des rues, des avenues, Robert Badinter, partout. On vous demande des hommages partout, tout le temps.
Oui.
Parce qu'il était, une des dernières consciences. Il était.
C'est vous qui jugez.
Il était la République, il l'a dit, Emmanuel Macron.
Oui. Je n'ai pas, moi, de commentaire à faire là-dessus.
Juste encore un mot, et avant d'arriver à votre livre important, vous vous êtes mariée quand vous aviez 22 ans.
Oui.
Elisabeth Badinter, vous avez eu 57 ans de mariage avec lui, ce qui est colossal. Comment vous allez aujourd'hui qu'il n'est plus là ?
Le moins mal possible, mais je ne vous en dirai pas plus.
Et on le comprend parfaitement.
Alors venons-en à ce livre, « Messieurs, encore un effort ». Il résonne comme une injonction faite aux hommes. On va en parler. Son sujet, vous vous attaquez à la baisse structurelle du taux de natalité en France et en Europe qui ne cesse de s'accentuer ces dernières années. La France n'y échappe plus depuis le Covid, alors que pendant longtemps, il y avait en la matière une véritable exception française. Dites-nous, pour commencer, ce qui vous a poussé à écrire, à travailler sur cet implacable constat de la dénatalité qui touche tous les pays en Occident.
Ce qui m'a poussé, si vous voulez, à écrire quelque chose très vite, c'était l'année dernière, c'est que j'ai ressenti un vrai danger pour les libertés des femmes, pour la maîtrise de leur corps. Parce qu'en fin de compte, en dernier ressort, c'est quand même elles qui décident. Par conséquent, si ça continuait, si la natalité continue à baisser au rythme où nous l'avons vu entre 2010 et aujourd'hui, je pense qu'on finira, ou on finirait plutôt, j'espère, par, interroger les femmes et faire des pressions sur elles. C'était la première réaction. Et puis, en même temps, deuxième réaction, j'ai été aussi intéressée par le conflit possible entre deux légitimités. Je veux dire, première légitimité à mes yeux, c'est de protéger à tout prix les libertés de la femme, respecter absolument ses désirs concernant la natalité ou pas, et en même temps reconnaître les devoirs d'un État pour que maintenir quand même une certaine forme de croissance pour pouvoir payer les retraites. Enfin, et d'une certaine façon, si ça continuait, je n'en sais rien, mais il y a aussi une question de survie de l'État et de mode de vie. Mmh. Voilà. Donc, il y avait les devoirs de l'État et en même temps les droits des femmes, et que j'ai imaginé que peut-être ces deux légitimités pourraient rentrer en conflit.
Ce livre résonne en tout cas comme un prolongement de votre essai qui fut un choc, un événement en 1980, L'amour en plus, une histoire de l'amour maternel, un livre qui a contribué par le biais de l'analyse historique à démonter les clichés qui entouraient l'amour maternel, l'instinct maternel, bref, à séparer, comme vous le dites dans le livre d'aujourd'hui, 45 ans plus tard, la femme de la mère. Mais aujourd'hui, vous faites ce constat, les femmes sont parvenues à se libérer ces dernières années, la révolution féministe a été là, il y a eu MeToo, mais les mères restent très contraintes. Vous pointez ce paradoxe, la libération de la femme ne libère pas la mère au XXIe siècle. Expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que la révolution féministe qui naît en 1970, dans les années 70-2000, est très active. Il y a Simone de Beauvoir, il y a des féministes, le MLF, etc., et qui inclinent les jeunes femmes à être indépendantes professionnellement, d'être libres de leurs choix, etc. Et le fait est que ça a très bien marché pendant une trentaine d'années, c'est-à-dire professionnellement, ça a avancé de façon quand même significative l'égalité entre hommes et femmes, même si les salaires sont pas toujours, du côté de l'égalité. Mais quand même, il y a eu des progrès inouïs. Et puis, un frein est apparu, où on en a pris conscience, je dirais, dans le début des années 2000, tout d'un coup, les signaux d'égalité sont devenus de plus en plus lents à évoluer, et la raison en est finalement qu'il reste une inégalité entre hommes et femmes que nous n'avons pas surmontée, et cette inégalité, elle est difficile à combattre parce qu'elle concerne l'intimité du couple, l'intimité des familles, et c'est le fait que si les femmes sont capables, et elles le montrent tous les jours, d'être aussi efficaces et aussi bonnes professionnellement, à l'intérieur de la famille, au sein de la famille, eh ben, il reste une inégalité sur laquelle on a beaucoup de mal à agir. Mmh. Je veux dire, je peux pas imaginer un instant qu'on fasse des lois punissant de je sais pas quoi.
Parce que on ne fait pas le ménage, l'homme ne fait pas le ménage, voilà, ou ne met pas la machine
à laver. Exactement, ne partage pas le monde privé, intime de la famille, de la maison, à l'égal de ce qu'on peut espérer professionnellement.
Voilà, vous le dites, Elisabeth Badinter, les inégalités salariales persistent, les tâches ménagères et parentales sont encore mal réparties, la charge mentale, concept que vous reprenez, reste du côté des femmes. Donc le féminisme s'est démocratisé, comme le disait Léa, il y a eu MeToo, mais quand on regarde les chiffres, les faits, le réel, l'égalité est dans les discours, mais pas dans la vie réelle.
MeToo, ça concerne principalement, je dirais, le respect des femmes sexuellement, et ça touche particulièrement les violences sexuelles. Bon, c'est une part de l'inégalité des sexes, mais dans le quotidien de tout le monde. Si on y réfléchit deux secondes, pour les femmes, la vie quotidienne, quand elles sont à plein temps, et c'est de plus en plus le cas, et quand elles sont à plein temps et qu'elles vivent avec leur compagnon, c'est le moment où on est au plus proche de l'égalité. Chacun partage à peu près les charges du quotidien, de la maison, du ménage, etc. Donc, et en général, ce sont les classes moyennes qui sont en tête de ça. Bon, quand l'enfant paraît, quand l'enfant paraît, tout change. Tout change pour les femmes parce que elles continuent à assumer la plus grosse charge, la plus grosse responsabilité, la plus grosse culpabilité, parce qu'elles elles sont en ce moment particulièrement, et c'est ce qui me frappe beaucoup, l'objet de deux obligations, si j'ose dire. La première, c'est que On nous a inventé une nouvelle éducation qui vient des psychologues.
L'éducation positive.
Oui, bienveillante.
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 Dont vous parlez dans ce livre, et d'ailleurs, vous prenez clairement dans ce livre parti pour la pédopsychiatre qu'on a beaucoup entendue sur France Inter cet été.
Caroline
Goldman.
Exactement. Parce que si on y réfléchit deux minutes, le problème est le suivant. Dès lors que vous pouvez ne pas avoir d'enfant, avec la contraception et la possibilité de l'avortement, ça veut dire que vous choisissez d'être mère, de mettre un enfant au monde, et donc vous êtes mentalement dans l'idée que vous lui devez tout. Vous étiez pas, on n'est pas obligé. Et donc quand on choisit d'avoir un enfant, et il naît comme ça, peu à peu, l'idée qu'il faut être la mère parfaite. Voilà.
C'est ça,
on
c'est
lui
ça aussi.
Doit tout.
C'est ça qui bloque aussi, parce que vous essayez de trouver les causes de cette baisse de la natalité. On rappelle quand même que ça ne cesse de baisser, notamment en France, il n'y a plus d'exception française, avec les derniers chiffres qui sont parus par l'INSEE cette année, où c'est vraiment le plus bas jamais atteint, une baisse entre 2022 et 2023 de 7% des naissances en France. Donc vous essayez de comprendre les causes. Il y a d'autres causes que vous mentionnez dans ce livre-là. Vous signalez plusieurs phénomènes qui bloquent cette envie de maternité chez les femmes, où de plus en plus, et notamment aux États-Unis, on se vante d'être child free, comme on dit, vous citez l'expression, je veux pas d'enfant, j'en veux pas. Alors, il y a la médicalisation de la grossesse. On doit désormais renoncer à tout, alcool, cigarettes, comme elles sont loin, écrivez-vous, les années 70, où l'on pouvait vivre sa grossesse avec insouciance. Et puis, il y a une autre pression nouvelle.
C'est le moment où je dis l'embryon devient le patron.
Ouais, voilà, c'est ça. L'embryon devient le patron. Donc maintenant, on n'a plus le droit à rien pendant les 9 mois de... Il y a des médecins qui vont nous écouter qui ne vont pas être d'accord avec
j'en
ce qu'on
suis
dit.
Sûr. Voilà. Je sais d'avance.
Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est vous qui le dites. Et puis, il y a une autre pression nouvelle très juste et très intéressante sur les femmes, c'est l'allaitement. Alors maintenant, c'est vrai que c'est devenu quasiment une obligation et qu'on vous regarde de manière très suspecte quand vous osez ne pas allaiter votre enfant parce que vous seriez une mauvaise mère.
Exact.
Et ça aussi, ça bloque.
Alors, ça bloque moins les Françaises que les autres, comme vous avez pu le voir. Mais c'est vrai que les femmes se sont senties obligées d'allaiter. D'ailleurs, au moment où vous allez accoucher, les infirmières passent et vous dites « Naturellement, madame, vous allez allaiter ». Il faut dire non, c'est pas si facile. Mais seulement les Françaises, et c'est pour ça qu'elles me sont très sympathiques, les Françaises, contrairement au reste des Européennes, allaitent moins longtemps que toutes les autres. Au bout de 2 mois, ça y est, la majorité reprend le biberon et s'occupe plus de la pression qui pèse sur elle. Et ça, c'est typique français. Les femmes françaises bénéficient par rapport aux autres femmes de nombre autres démocraties d'un passé où, justement, on faisait le distinguo entre les intérêts de la femme et les intérêts de l'enfant, de la mère. Et donc, on s'est conduit très très mal à l'égard des enfants au XVIIIe siècle. Toutes celles qui pouvaient s'en débarrassaient. Au bout de 24 heures, ils étaient baptisés et hop, ils partaient à la campagne chez des nourrices dont on perdait souvent l'adresse, c'est vous dire.
Vous prenez pas ça non plus, hein. Je voudrais rassurer ceux qui nous écoutent, vous êtes pas pour vous débarrasser de l'enfant.
Non, pas du tout, je suis pas pour
loin de là.
Le premier jour.
Le premier jour.
Oui, mais ça voulait dire que la société ne pesait pas sur les femmes comme elle pèse aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, les femmes aujourd'hui se retrouvent au sein d'une contradiction formidable. Elles doivent être des mères parfaites, alors oui, pendant qu'elles sont enceintes, allaitées, finalement adopter l'éducation bienveillante, qui est extrêmement lourde à mon avis pour les femmes. Et en même temps, nous sommes dans une nouvelle phase de nos mœurs, de nos valeurs, qui d'ailleurs a été renforcé par l'expérience du Covid, qui fait que depuis peu de temps finalement, quand même peu de temps par rapport à l'histoire des femmes, nous sommes dans une époque où la priorité, c'est moi. Moi d'abord. La priorité, c'est l'épanouissement personnel. La priorité, c'est effectivement d'avoir un peu de temps pour soi, un peu de liberté pour soi en tant que femme, ou en tant qu'homme, bien sûr. Mais et par conséquent, comment concilier tout pour le bébé et moi d'abord? Voilà. Et donc, c'est, je pense, un facteur important également, parce que quand même, de ma génération, c'est-à-dire ayant eu des enfants avant 70, nous ne nous posions pas la question « Est-ce que j'ai envie d'un enfant ?» Pas du tout, parce que ça semblait comme l'aboutissement du bonheur féminin. Mm. Personne ne se posait cette question, ne réfléchissait.
Et aujourd'hui, toutes les jeunes oui. se posent cette question. Vous dites, vous parlez de rupture en anthropologique.
Anthropologique, oui.
Sur cette question-là.
Et absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le calcul des plaisirs et des peines. Qu'est-ce qu'un enfant, c'est quand même 15 à 20 ans de compagnonnage avec l'enfant, qu'est-ce qu'un enfant va m'apporter comme plaisir et comme charge, comme lourdeur, comme travail? Et ce calcul-là, il était impensable. Impensable il y a 30 ans.
Mais il est bon ce calcul-là ou pas?
Écoutez, bon ou mauvais, non, il est humain, c'est comme ça. C'est notre évolution individualiste, il faut bien le dire, égoïste si vous voulez, mais c'est comme ça, il faut faire avec.
C'est un fait, oui.
Et le fait, et c'est renforcé, c'est rendu possible justement parce que nous avons la capacité de ne pas faire d'enfants. Alors si on en fait, faut tout assumer.
Elisabeth Badinter, vous alertez sur le risque que des pouvoirs autoritaires réduisent les droits des femmes dans les années à venir, et je vais vous citer. Il est à craindre que certains États fassent payer aux femmes la note de la dénatalité, notamment en s'appuyant sur des principes d'ordre religieux. Faute de les convaincre par diverses allocations, un gouvernement peut décider de limiter, voire de supprimer l'interruption volontaire de grossesse ou le recours à des moyens contraceptifs. Cette hypothèse, qui paraît invraisemblable aujourd'hui, peut ne plus l'être d'ici une quinzaine d'années si la chute de la natalité se poursuit au même rythme et de surcroît donc si les religions s'en mêlent. C'est fin de citation. C'est un scénario qui vous semble vraiment possible d'ici à 15 ans?
Alors écoutez, si on m'avait dit il y a 2 ans que la plus grande démocratie du monde permettrait aux États, des États-Unis de légiférer là-dessus.
Contre l'avortement,
c'est le cas dans 14 États, je ne l'aurais jamais cru. Vraiment, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit aussi qu'en Italie, après les années 78, quand ils ont voté l'avortement, il y avait plus de 220 000 femmes italiennes qui procédaient à des avortements, si jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, faute de comment dirais-je de médecins pour avorter, ils sont, pensez qu'en Italie du Sud 80% des médecins refusent l'avortement, c'est la clause de conscience, et dans le reste de l'Italie c'est 62%. C'est-à-dire que c'est devenu très difficile d'avorter. C'est un chemin de croix pour les Italiens.
Vous n'auriez jamais imaginé ça il y a 2 ans encore.
Voilà, exactement.
Et c'est vraiment ce qui vous inquiète. Là, c'est aussi pour ça ce livre.
Vous comprenez, moi, quand j'entends un certain nombre d'hommes politiques, je dis bien d'hommes, j'ai jamais entendu une femme dire ça. Quand j'entends des hommes politiques, comme ça s'est passé il y a quelques semaines ou quelques mois, dire à propos de porter le droit à l'avortement dans la Constitution, mais c'est impossible en France. Alors, je me dis, mais...
On n'est pas les États-Unis. Nous, on n'est pas les États-Unis. C'était ça que disaient les
C'était ça. Ça ne peut pas arriver en France. Ouais. Eh bien, je dis, c'est d'une légèreté incroyable. Personne ne sait ce qui va se passer. Pour pouvoir dire ça, il faudrait aussi que nous ayons une vue peut-être plus claire des désirs des femmes. Ce que montrent les femmes, ce que je viens d'expliquer, à savoir, on regarde bien avant d'eux. Comment on va faire pour que nous ne perdions pas plus d'habitants en France? Mais la France encore, elle est toujours la première en Europe à faire des enfants. Mmh. Bon, quand même, faut pas... Et à cause de nos traditions. Mais je veux dire, comment peut-on affirmer ça peut pas arriver? Eh bien si, moi je ne suis pas d'accord.
Eh bien si, et surtout vous avez une solution qui repose un petit peu dans le titre du livre, « Messieurs, encore un effort ». Votre solution, vous pensez qu'on pourra... j'ai utilisé le terme du président de la République, « réarmer démographiquement la France » en partageant encore plus, en allant encore plus loin dans l'égalité. Ça m'a fait sourire de voir que vous repreniez le terme de charge mentale, qui est un terme très contemporain, mais vous le reprenez. Oui, la charge mentale repose encore, toujours, sur les femmes quand l'enfant arrive. C'est comme vous le dites, c'est-à-dire peut-être pas quand il n'y a pas d'enfant, mais ensuite c'est vraiment sur la femme que ça repose.
Oui, et non seulement charge mentale, mais je dirais aussi une fatigue physique. C'est extraordinairement fatigant d'assumer la double journée de travail. Alors, charge mentale, parce qu'il faut penser à tous les jours, au moindre détail de la vie de la famille, de la vie des enfants, et en même temps, continuer à travailler sur son ordinateur pour certaines. C'est trop, voilà, c'est trop lourd. Mmh. Et c'est d'autant plus lourd que les femmes sont en train d'atteindre, peu à peu, mais plus vite, l'égalité avec les hommes professionnellement. C'est pas encore aujourd'hui, mais on voit que ça avance.
Mais c'est pas le cas,
mais
à, la
c'est pas le cas à la maison.
C'est pas le cas à la maison. Vous appelez les hommes à être plus féministes, au fond.
J'appelle les hommes à être enfin égalitaires. Pas égalitaires, féministes, égalitaires surtout. Je veux dire, c'est respectueux, je veux dire, de la justice qui doit régner dans un couple, enfin au sein d'un couple. Et donc, si eux ne bougent pas, ça risque de durer assez longtemps. Et donc, je voudrais quand même préciser que dans ce petit livre, je ne suis pas cruelle à l'égard des hommes. Je ne les agresse pas trop. Mais en même temps, je pense que il faut absolument qu'ils prennent conscience.
Vous dites les politiques natalistes, si à politiques natalistes, elles doivent s'adresser aux femmes, mais pas seulement aux femmes, aux hommes aussi.
Je dis pire que ça. Je dis qu'elles doivent s'adresser d'abord aux hommes. Les femmes font tout ce qu'elles peuvent. C'est à eux. Mais pour autant, je ne présume pas qu'il faut prendre des mesures force. La vie privée des gens, c'est aussi un lieu qu'on va respecter.
Encore un mot, Elisabeth Badinter, sur un autre sujet. Vous êtes intervenue dans le débat sur la fin de vie. Vous avez écrit une lettre au député Olivier Falorni, rapporteur à l'Assemblée nationale sur le projet de loi fin de vie. Une lettre publiée dans la Tribune dimanche qui répondait à ceux qui instrumentalisaient la parole et la pensée de Robert Badinter pour affirmer qu'il n'aurait pas soutenu cette loi au nom du fait qu'il était l'homme de l'abolition de la peine de mort. Vous écrivez dans cette lettre « Mon mari n'a jamais assimilé aide à mourir et peine de mort. Mon mari s'est forgé au fil des ans la conviction qu'une évolution vers une aide active à mourir était acceptable et même souhaitable dans certaines circonstances et selon des conditions précisément définies par la loi. » Fin de citation. Vous avez souligné que Robert Badinter, vous avez exprimé cet avis en 2021. Il avait évolué sur le sujet.
Il avait évolué en vérité à propos du terme euthanasie qui, en 2008, lui faisait assez peur, euthanasie. Il a évolué, effectivement, sur ses positions qui étaient plus, je dirais, qui avec plus de recul. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a évolué en même temps. Il s'en est ouvert à différentes personnes. Et ce qui m'a un peu gêné, pour pas dire indigné, c'est qu'on se servait d'un propos, enfin, d'un témoignage dans une commission de 2008, alors que moi, je savais aussi son évolution vers une position précise, positive quant à la loi. Et monsieur Falorni m'a joint en me disant, écoutez, j'ai moi-même consulté votre mari en 2021. Pendant une heure et demie, il était d'accord avec ce projet. Et moi, personnellement, Elisabeth, j'ai participé en septembre de l'année dernière, 2023, à un entretien avec la ministre déléguée à l'époque de la Santé, Madame Le Bodo, qui était venue à la maison avec une assistante et qui a entendu elle-même, elle peut en témoigner aujourd'hui comme moi, il aurait voté cette loi s'il était, et c'est évident.
Donc, il n'y a pas de doute.
Ah non, il n'y a pas de doute.
Donc vous dites ce matin aux adversaires de cette loi qu'ils ont le droit d'être adversaires de cette loi, mais qu'ils ne doivent pas utiliser le nom de Robert Badinter.
Exactement.
Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Messieurs, encore un effort. Trois petits points. C'est le titre de votre livre, Elisabeth Badinter, publié chez Flammarion et Plomb. Merci encore d'avoir été là.